Poussez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis de 21h à 22h, en rediffusion sur les antennes de Radio Pays d'Aurillac, tous les samedis de 20h à 21h. Retrouvez votre émission également sur YouTube, sur la chaîne Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne? Vous souhaitez vous exprimer à la radio? Rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur le compte Instagram Chroniques Terriennes. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, je reçois le groupe Des Lions pour des Lions, groupe angevin qui se produira le 11 février prochain sur la scène du Sismographe. Enfin, pour achever cette émission, nous réécouterons Lucas Nedeleg qui se produisait au Rapatona de 2022. Vous avez été nombreux à me le redemander. Bienvenue dans notre émission des Chroniques Terriennes sur Radio Pays d'Aurillac. Aujourd'hui, je reçois deux membres du groupe Des Lions pour des Lions, un groupe angevin. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Alors bonjour, moi je m'appelle Elisabeth et dans le groupe Des Lions pour des Lions, je joue du saxophone, du trombone et je chante.
Oui.
Moi, tout le monde m'appelle Bousson et je joue du trombone, de la basse et du synthé basse et je chante un peu dans Des Lions pour des Lions.
Il y a
Freddy, oui, qui joue de la guitare et Momo qui joue du dol.
Le dol, ce tambour très particulier quand même.
Oui, c'est un tambour du Rajasthan. C'est un tambour indien et puis qui est utilisé pour une cérémonie religieuse une fois par an. Une fête où on joue ces percussions un peu comme, entre guillemets, parce que c'est pas du tout le même coin, mais comme une batucada. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on croit que c'est 8 dolles, donc des grands tambours qu'on tire horizontalement, et puis des tachaks qui sont peut-être une dizaine de tachaks qui sont comme des caisses claires très tendues, très très sonores. Et donc une fois par an, dans le Rajasthan, à Jaipur, on joue de ces percussions.
Ouais, donc c'est pas vraiment quand même un instrument, on va dire, qui est utilisé dans la musique folklorique. C'est vraiment un instrument religieux pour une cérémonie.
Alors moi, je suis pas assez pointu. C'est vraiment Momo qui est pas là, mais qui est le joueur de dol et puis qui a fait plusieurs séjours en Inde. Donc lui, il pourrait vraiment mieux en parler. Mais ouais, pour faire court, voilà ce que je sais de cet instrument.
Mais c'est très proche de la grosse caisse, hein, de ce qu'on a, les grosses caisses, nous. Ça ressemble beaucoup.
Alors, finalement.
Donc c'est une formation avec des cuivres, éventuellement de l'électronique avec du clavier, je suppose, guitare, voix, basse, j'oublie rien.
Non, mais c'est vrai que c'est l'instrumentarium, c'est important parce qu'il est, il est inédit. Bon, après, il y a beaucoup de formations maintenant qui sont très, très singulières comme ça, mais c'est pas le basse, batterie, guitare, rock qu'on a pu entendre pendant très longtemps. Là, ça se diversifie. Donc, le guitariste, c'est vraiment guitare dobro, donc c'est la guitare avec le résonateur, tout cas avec les ambiances vraiment blues.
Oui, c'est
aussi des ambiances. Vraiment avec beaucoup d'effets, quoi. Et le MS-20, c'est vraiment synthé analo, qui peut être un peu indus. Tout ça, c'est joyeusement, pour faire une musique vraiment de trance. C'est
oui,
ça, notre...
J'allais vous poser la question, quelle musique jouez-vous? Donc, vous dites une musique de trance.
Oui, pour faire court, c'est pareil. C'est ce qu'on se dit, le terme le plus générique, qui pourrait, oui, rassembler peut-être le plus fort aussi. Mm-hmm. C'est la trance. C'est-à-dire, c'est quand même... la création de motifs répétés et toujours augmentés sur l'idée du temps qui s'écoule.
Une progression.
Une progression, c'est-à-dire qu'on a très peu de morceaux à 3 minutes.
J'ai remarqué, oui. Ça va être difficile en radio, d'ailleurs.
Ben oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout le format pop, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut laisser le temps au temps. Donc, c'est aussi politique, hein, comme...
Oui, je comprends très bien. L'avantage, c'est que sur Radio Pays d'Aurillac, nous avons également le temps, donc nous écouterons un ou deux morceaux dans leur intégralité, bien évidemment. Ce groupe existe depuis 6 ans, si je ne me trompe.
C'est ça.
C'est né comment ? Ce sont des rencontres, je suppose. C'est vraiment ça s'est formé à 4 directement ou il y a des gens qui se sont greffés au fur et à mesure ?
Non, c'était un peu le labo, le side project de Momo, donc qui est au dol, Bouchon qui était au trombone et moi au saxophone. Et en fait, c'était un labo, on avait d'autres projets à côté. Et on se retrouvait pour faire vraiment une musique de rue. Donc c'était très très minimal, assez radical, c'est-à-dire une grosse caisse de cuivre pour tenir un set très énergique. Il fallait donner de sa personne et assumer aussi le vide quelque part.
Mais c'est très New Orleans finalement, les cuivres et le tambour. Ce que je veux dire par là, c'est la musique de rue comme on la connaissait à la Nouvelle-Orléans, la musique jazz, était une musique très sonore et très rythmée parce que il fallait qu'elle s'entende, il n'y avait pas d'amplification.
Oui, mais c'est vrai que là, il y a un grand retour des musiques New Orleans en Europe, en France. Après Katrina, en plus, la scène New Orleans a été très, très dynamique. Mais nous, c'est vraiment pas...
Ah oui, oui, tout à fait. Non, pas... j'ai pas dit que ça ressemblait. J'ai dit que dans l'esprit, on était sur quelque chose qui se rapprochait de ça à la base. En fait, les cuivres plus le tambour, ça a amené quelque chose quand même de très sonore qui presque ne nécessiterait pas toujours une amplification, en tout cas.
Oui, mais nous, on vient de la fanfare, nous aussi. La fanfare... elle est utilisée, la fanfare européenne est utilisée à la New Orleans. Donc en fait, ça fait la boucle.
Oui,
mais
complètement,
nous,
oui.
Pas que de la fanfare. Moi, j'ai commencé dans mon village, mais pas Momo du tout, ni Freddy. Mmh. Mais on a cette histoire-là au départ aussi, c'est clair. Mais moi, que j'aime bien, hein, que je revendique, j'aime beaucoup.
Bientôt, d'ailleurs, nous aurons un reportage sur l'harmonie d'Aurillac.
Oui,
qui alors a également un registre très 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 vaste, hein, parce qu'on va des morceaux plutôt très classiques à des choses beaucoup plus funk ou autre chose d'ailleurs.
Oui, mais très bien, tant mieux.
Alors j'ai écouté vite fait, je dois l'avouer, ce que vous faisiez sur YouTube. J'ai quand même vu qu'il y avait quelques petites inspirations de jazz, on va dire, hein, quand même.
Mais en tout cas, il y a de grandes plages vraiment très improvisées.
Oui, tout à fait.
Le canevas, il est assez serré parce que c'est pas des improvisations si libres. Finalement, c'est assez pop dans le discours, je trouve. Et même si on utilise les instruments, le saxophone ou le trombone ou la guitare, d'ailleurs, on est tous improvisateurs. Donc, effectivement, c'est pareil, ça colore les choses. On parle tout de suite de jazz. Si on entend un saxophone improvisé, c'est connoté, quoi. C'est la racine. On en a beaucoup écouté, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas une musique savante. On peut pas dire que les lions, c'est pas une musique savante. C'est une musique de matière, c'est une musique organique, c'est une musique de trance, je pense. C'est une musique pop aussi, parce que ça chante.
Oui.
Et le jazz, qui est tout à fait une musique populaire à la base, et puis qui vient de la rue, qui vient du peuple, quoi. Mmh. Populaire pour peuple, eh bien, c'est une musique extrêmement savante. Bah, nous, peut-être c'est notre côté rock. C'est assez instinctif quand même.
D'accord. Enfin, dans le jazz, dans les jam sessions, dans les séances d'improvisation, il y a quand même des choses qui sont assez trans aussi également.
Oui. Ah, bah, bien sûr, ouais.
Coltrane.
Ah, Coltrane, oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Coltrane, par exemple, oui.
Oui, bien sûr. Bah oui, c'est vrai. Bien sûr, l'improvisation, c'est un rapport à l'instant. Mm-hmm. Donc ça parle de trance, tout ça, c'est sûr.
Vous avez plus ou moins tous fait de la musique dans votre jeunesse, je suppose. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Certains viennent un peu de la fanfare. Pour vous deux, c'est une expérience qui remonte à loin, la musique ?
Pour moi, oui. J'ai commencé tout petit, mais dans mon village, avec mon grand-père, dans l'harmonie, quoi. Et puis... À 12 ans, j'ai découvert les disques de rock de ma sœur et je me suis acheté une basse électrique. Voilà. Et j'ai fait de la musique aussi différemment. Avec ma basse, j'ai regardé mes doigts, j'ai écouté. Mais j'ai toujours continué le conservatoire. C'est bien que...
Ah oui, quand même, conservatoire.
Parallèlement, j'ai fait les deux et il n'y a pas de sotte manière de faire de la musique. Voilà. Donc moi, ça m'a aidé d'avoir abordé aussi la musique d'une autre manière que celle d'écrire ou de lire des partitions.
Oui, je comprends. Vous avez quel âge d'ailleurs, tous dans le groupe là ? Je ne sais pas trop. Vous êtes de quelle génération, on va dire ?
On est entre 43 et 61.
Ah, quand même, c'est une belle fourchette.
Ouais.
C'est une très très belle fourchette. Avant ce groupe, est-ce que chacun d'entre vous avait eu des expériences dans d'autres groupes?
Oui, on a... Bah, Bouchon, vas-y. Hein.
Oui. Bah, moi, j'ai joué dans un groupe de rock qui s'appelait les Dirty Hands. Ah, c'était la scène indé dans les années 90 en France.
Et on trouve encore des sons là-dessus?
Les Dirty Hands, les mains sales, oui, sûrement, ouais.
Bon,
oui.
Bah on fouillera.
Oui, bien sûr. On a fait trois albums.
Ah, quand même, oui.
Et oui, chez Roadrunner.
Des scènes, vous en faites souvent? Vous tournez régulièrement?
Bah oui, on tourne 35 à 40 fois par an.
Ce qui commence à être pas mal.
Oui, c'est bien.
Donc, on joue beaucoup. Bah, là, ce mois de février, on jouera. C'est pas la pleine saison en plus pour nous, parce qu'on joue quand même plus sur les festivals d'avril. Et là, on joue au festival Les Nuits d'Alligator. Donc, on sera à la Maroquinerie à Paris le 23 février. On sera le 24 à.
Très bel endroit, la Maroquinerie.
Ouais. Au Tourcoing le 25 au Grand Mix et au 106 à Rouen le 24.
Oh, bah, jolie tournée.
Ouais, ça va être sympa. Et bien sûr, donc à Aurillac, Sismographe.
Le 11, bien sûr. Et les Aurillacois répondront présents, j'en suis sûr. De toute façon, le Sismographe est une salle qui débute vraiment très, très bien et qui a un programme très éclectique, on va dire. Donc, et assez intergénérationnel, finalement. C'est plutôt sympa. Est-ce que vous resterez après le concert pour discuter un petit peu avec les gens ou vous relaxer, ça dépend des artistes. Il y en a certains qui préfèrent un peu s'isoler, d'autres rencontrer la foule. Vous êtes plutôt comment, vous?
On est venu, en fait, on a été bien accueillis cet été. On a joué en format rue pour le...
Au théâtre
donc,
de rue.
Voilà, c'est ça, oui. Le festival. Si, on jouait dans une cour et on a fait donc, les rencontres qui nous permettent de revenir à cette occasion.
Et alors,
oui. On est très, très ouvert pour parler avec les gens.
Bon, bah,
on fait ça surtout, pour rencontrer les gens.
Ouais. Des projets, bon, à part en février, des projets d'été sur des gros festivals?
Pour l'instant, ce n'est pas vraiment confirmé, tout est en option. Ça va se définir là dans le mois qui vient.
Voilà, bah, comme souvent d'ailleurs.
C'est ça.
Ouais.
Radio Pays d'Aurillac.
Des projets, bon, à part en février, des projets d'été sur des gros festivals?
Pour l'instant, c'est pas vraiment confirmé, tout est en option. Ça va se définir là dans le mois qui vient.
Voilà, comme souvent d'ailleurs. Hein.
C'est ça.
Ouais. Depuis la fin des confinements, je suppose que ça devient un peu plus facile. Comment votre groupe a vécu cette période un peu difficile du Covid?
Comme tout le monde, hein, c'était pas. Évidemment, on était impactés parce qu'on ne pouvait pas jouer. Mais après, on n'était pas non plus en première ligne. C'était plutôt le marathon du vide qui était peut-être un peu douloureux et puis ça nous a permis de se rendre compte qu'on aimait vraiment notre boulot puis qu'on avait vraiment envie de jouer de la musique et de partager des choses en vrai. Parce qu'on a essayé de faire les concerts virtuels comme ça s'est fait beaucoup. L'expérience dans notre cas en tout cas, elle est nulle quoi.
Elle n'est pas satisfaisante en tout cas.
Ouais, nul, je voulais la rapporter à zéro, c'est-à-dire que pour nous, c'est pas notre propos. Après, ça peut être super, évidemment, hein. Je suis pas contre l'idée de faire de la musique, je sais pas, mais on créerait une musique différente. Il faudrait inventer un dispositif pour adapter. Mais finalement, filmer un concert tel quel, il y en a des live sessions qui sont très chouettes d'ailleurs, KUXP sans public.
Oui, tout à fait.
Et c'est super avec des caméras de proximité et puis créer une petite scéno sympa. C'est finalement rentrer dans une salle de répétition. Mais dans notre cas, on sait que l'énergie, elle vient aussi de la salle. Je crois qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont d'accord avec ça. Donc faire l'économie de la rencontre avec le public, c'est un peu compliqué.
Alors,
c'est pas l'histoire de pop, que j'adore ça, la pop.
Mmh.
Il y a un début, une fin, je pense que ça se joue peut-être encore plus que d'autres musiques avec les gens, peut-être, je sais rien.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous écoutez, vous deux, comme musique habituellement?
C'est très très large, on écoute beaucoup beaucoup de musique classique. Ouais. Je dis on est ensemble dans la vie aussi.
D'accord.
Avec Bouchon qui est à côté de moi. Donc on écoute vraiment beaucoup de musique classique parce qu'on a cette culture-là, justement, la culture. Des cuivres, c'est aussi formation conservatoire, tout ça. Donc je pense qu'on en a écouté très jeune. Et puis, c'est une musique qui prend une place juste dans une maison. C'est-à-dire que c'est une autre expérience de mettre du rock. C'est quand même fort, par exemple.
Tout
on
à fait.
On écoute les Viagra Boys en ce moment. On écoute. Là, j'ai vu que Flavien Berger, qui est un musicien pop, va sortir un album en mars. J'ai hâte, parce que ça, je sais que ça va me plaire beaucoup. On a une petite session un peu revival Eminem, donc plutôt rap 2000.
Mm-hmm.
On écoute. Je regarde, je vais chercher mes vinyles.
Oui, en fait, c'est quand même très éclectique, très varié, hein, tout ça.
Tout à fait.
Et pour toi, Bouchon, c'est à peu près les mêmes goûts ou il y a quand même des petites différences?
J'écoute beaucoup ce qu'écoute Babette, elle est aux aguets, elle est à l'affût de tout ce qui peut sortir, de racheter même des vinyles, donc je trouve ça très bien. Moi, je mets moins dans le foyer, je m'occupe plutôt de faire à manger.
C'est pas un rôle désagréable non plus, hein.
Non, c'est essentiel. Non, on a vu un bon concert.
Alors, Bouchon aux nourritures terrestres et finalement, l'autre aux nourritures spirituelles.
Ouais. Ouais. Elle disait, Babette, on est allé voir le concert de Kate Tempest. Là. Elle m'a emmené là-bas et j'ai trouvé ça génial. Je me suis pris une claque.
Maintenant, ça s'appelle Kate Tempest.
D'accord. Ça va donner des pistes peut-être à nos auditeurs aussi. Hein, parce que c'est bien aussi de découvrir et de parler des autres. C'est toujours intéressant. En ce qui concerne la création dans votre groupe, est-ce qu'il y a plutôt quelqu'un qui crée ou alors c'est vraiment quelque chose qui se fait ensemble?
Oui, ça se fait ensemble. Oui, ça se fait ensemble. Oh, ça a une idée de quelqu'un et puis chacun se brode dessus. Chacun amène sa pierre. C'est vraiment un groupe, quoi. Il n'y a pas très très peu de compositions faites par un seul. Ou même si ça peut arriver, c'est beaucoup repris par les autres à leur manière. Je trouve que c'est la force d'un groupe, c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc, si quelqu'un amène une compo, elle est vite détournée et chacun amène ce qu'il a amené. Voilà. Et en ce qui concerne, par contre, les textes, c'est Babette qui fait essentiellement les textes.
Toujours l'élément spirituel, finalement.
Voilà. Oui, très bien.
Bon, la spiritualité, elle est aussi dans le bien manger.
Dans le bien manger.
Je vous rejoins totalement. Je vous rejoins totalement. Que pensez-vous faire dans l'avenir avec ce groupe ? Est-ce que vous vous projetez ou pas du tout ? Vous vous dites, bon, ben voilà, on laisse venir les choses.
Ça, c'est impossible, je pense, de laisser complètement venir les choses, mais on est quand même, justement, on n'est pas dans des business plans.
Oui,
donc,
voilà.
Et on a la chance d'être à la fois bien entouré, mais à la fois pas très gros, qui nous permet en fait de rester libre et d'avoir pas, on n'a pas une maison de 10 derrière nous qui nous dit ah, attention là c'est il faut sortir quelque chose, c'est maintenant. Donc on a des partenaires qui nous accompagnent. Pareil, ce plaisir à créer quand on en a envie, on l'a encore.
Finalement, cette liberté est utile à la création.
Bah oui, mais après l'urgence aussi, donc c'est un peu faux aussi ce que
oui,
je dis. Je dis des trucs un peu faux aussi. Mais voilà. Où on est, nous. On est, de toute façon, c'est un peu le principe de l'intermittence ou de la. Il faut, de toute manière, faire, créer, proposer, montrer. Il y a énormément de propositions et des propositions très chouettes. Ça, c'est super. Hein. Mm-hmm. Mais, évidemment, c'est pas si simple. Donc, il faut pas. C'est un luxe de pouvoir disparaître et réapparaître aussi fort. Mmh. Nous, on est bien obligés d'être tout le temps à souffler sur les braises, quoi.
Vous vivez tous de la musique ?
Oui.
Ah, c'est pas mal, quand même.
Oh, oui, ouais, c'est vrai. C'est une grande chance de vivre de notre musique et de notre création aussi, c'est vrai.
Partenaire dans un groupe, partenaire dans la vie, ça va ? Ça fait pas trop d'étincelles ?
Cela ne vous regarde pas. Non, mais c'est des choix de vie, hein. Chacun ses choix.
Ah non, mais c'était sans critique, hein. C'était plus de la curiosité malsaine, on va dire.
Non, mais c'est intéressant les choix qu'on fait. C'est les choix qui nous attrapent plutôt que des choix vraiment de se dire tiens, je vais et rencontrer quelqu'un et jouer avec lui et finalement ça se tisse parce que c'est une logique qui s'impose.
J'aime
En fait, votre groupe, il est né quand même de personnes, on va dire, de quadras presque à la base. Moi, je me souviens, il y a quelques années, systématiquement, c'était des jeunes qu'on voyait arriver. On voit de plus en plus de groupes qui se forment justement par des trentenaires, des quadras, même des personnes encore plus âgées et qui, en fait, font pas non plus des zéniths ou ce genre de choses, mais qui finalement perdurent dans le temps et permettent de voir d'autres choses, en tout cas d'assister à d'autres types de concerts que des concerts un peu uniquement pop, rock ou variété. Est-ce que vous pensez la même chose de ça?
Moi, je pense que c'est quand même c'est dur d'émerger. Donc là, toute la jeunesse, ils sont super nombreux. Il y a plus de moyens pour eux, mais c'est bien normal. Et puis, c'est là que ça se passe, de toute manière, le feu de la jeunesse, c'est le feu de la création, c'est magnifique et tout. Mais de durer, c'est pas facile. Mais par contre, il faut quand même se rendre compte, moi ça j'y crois fort, et je crois que c'est une société qui va mal de penser que ces vieux sont juste... moins efficace, moins
performant,
voilà. Je pense que quand même, le temps passant, y a une expérience, des choses différentes à dire, et je pense qu'on peut avoir autant de choses à dire à 80 qu'à 12, qu'à 50.
Je lisais une phrase d'Edgar Morin, là, qui disait « Avant, on disait vieux sage, maintenant on dit petit vieux. » C'est notre société qui respecte moins ses anciens. J'en sais rien, hein. Je dis ça.
Est-ce que ça vient pas aussi peut-être du fait que dans le temps, les vieux vivaient encore souvent dans la famille, que le soir il n'y avait pas de télévision et c'était souvent les vieux qui racontaient des histoires. C'était leur rôle de sage finalement.
Oui, ça fait très longtemps ça. Oui, sûrement, peut-être, oui, c'est ça. Pour ça, on disait vieux sage, mais il faut quand même écouter les anciens. Et puis là, par rapport au groupe, c'est intéressant parce que moi, je suis de la génération du début des groupes de rock quasiment. Dans les années 60, bon, ça commençait, mais vraiment. Donc, au bout d'un moment, ça suit. On arrive à mon âge et puis on a toujours envie de faire du rock.
Quel âge, Bouchon ?
Moi, j'ai 60.
60.
Voilà, donc c'est normal qu'on ne va pas s'arrêter d'aimer ce qu'on a aimé. On a aimé des groupes de rock quand on avait 20 ans. Pourquoi on n'aimerait plus ça à 60 ?
Non, mais par contre, on ne le fait pas forcément.
On ne le fait pas, non, mais on a l'esprit. Moi, je trouve que dans les lions, Moi, j'ai cet esprit-là du groupe. J'ai fait ça. J'ai fait un groupe de rock quand j'avais 25 ans. Et je trouve. J'essaie de garder ce même esprit. Et on a la sagesse en plus. Quand on est plus vieux, on a cette sagesse des relations.
Oui, je le pense aussi. Oui.
On peut partir sur les chapeaux de roue. Maintenant, on réfléchit plus.
Oui, on range mieux le matériel.
Oh, ça, c'est pas sûr.
Qui, pour toi, était le groupe de rock français?
Oui, les Tugs. Est-ce que tu connais?
Oui, c'est vieux, ça.
Ouais.
Oui, donc finalement, votre groupe, Les Lions pour des Lions, c'est un groupe qui est bercé de plein d'influences.
Exactement.
Et c'est un carrefour d'influences, je dirais même.
Oui, parce que chaque membre a ses influences, mais chacun aime les influences de l'autre. Je ne sais pas si je suis colère.
Si, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des partenariats avec des groupes de danse, par exemple?
C'était une idée de Babette, ça. Elle aurait bien aimé. On est ouvert, on nous a demandé de faire une musique d'un dessin animé, Mira Casas, un dessin animé brésilien. Donc ça nous on est ouvert. Moi j'ai joué pour une compagnie de danse. Alors, je sais pas si tu connais la compagnie Nathalie Béas.
Ah si, bien sûr.
Moi j'ai fait ces trois premières créations comme musicien aussi.
Ah, donc, tu vois, c'est très intéressant.
Oui. Donc on est ouvert là-dessus aussi, bien sûr. Babette adore la danse.
Et finalement, votre groupe est quand même très inspirant pour se bouger. C'est quand même le but de cette musique.
Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est aussi fait pour ça la musique, c'est pour évacuer plein de choses, ça fait du bien de danser.
Ça permet au corps de se libérer de la contrainte de l'esprit un peu.
Peut-être, c'est ton analyse. Moi j'y suis plus terre à terre que ça. Quand je danse, ça me fait du bien et après je me sens bien. Mais il faut franchir, il faut se forcer.
Dernière question, vous êtes venu à Aurillac, vous revenez à Aurillac, c'est un coin qui vous plaît ?
Bah oui, tout à fait, ouais. C'est beau quoi. Ouais, moi je ne connaissais pas en fait.
Non, on ne connaît pas très bien.
On ne connaît pas bien. Mais
on connaît Aurillac pendant le festival.
Ouais, donc c'est peut-être pas.
Puis quand on arrive à Aurillac, on a quand même la chance d'apprécier les paysages, mais on ne connaît pas très bien le Cantal.
On va connaître plus quand on va y aller.
Ouais.
Vous restez quelques jours ?
Non, on arrive. Non.
Oh là, non, mais déjà, on verra Aurillac sans le festival. C'est quand
oui.
Même...
oui, ça va être différent. Aurillac, l'hiver, c'est très calme quand même. C'est... quoi qu'il se passe, des choses toutes les semaines. Souvent, les gens à Aurillac ont tendance à dire qu'il ne se passe jamais rien. C'est plutôt qu'ils sont mal informés, on va dire.
Oui. Il y a combien comme... d'habitants?
Je crois qu'on doit être aux alentours de 26 000. C'est à peu près ça. Hein. Je me trompe peut-être. Mais bon, c'est à quelques centaines d'habitants près, c'est ça. Quoi.
D'accord. Oui. Ah oui, c'est une ville célèbre qui n'est pas si grande que ça, en fait.
Bah, c'est une ville célèbre souvent pour une mauvaise raison, puisqu'on dit que c'est la ville la plus froide de France, alors que c'est absolument faux, c'est Mout. Mais...
alors, on m'a dit oui, que c'est parce que le truc était placé dans un endroit super froid.
Oui, c'est... en fait, la station météo est à l'aéroport et qui est un endroit à courant d'air. Enfin, voilà. Quoi.
Ouais, bon, c'est ça.
Après, il ne fait pas chaud quand même. Hein. C'est une ville en altitude. Hein. Je crois qu'on dépasse les 600 mètres. Bon, voilà.
Je vais venir avec mon damar.
Ah, la nuit où vous allez jouer, il me semble qu'il va le faire moins 4. Je vais vérifier ça tout de suite. Comme ça,
d'accord,
vous allez...
mais réchauffer les cœurs et les cœurs.
Ouais. Oui, mais bon, la salle est très bien chauffée. Vous jouez le 11 au soir. Oh, bah non, il fera que moins 3, ça va. On a eu des concerts à moins 8 et la salle était pleine. Donc
les gens se déplacent, super.
Les gens se déplacent. Et puis, les médias locaux font en sorte aussi d'informer. Donc, ça aide aussi un petit peu.
Merci.
Pour ma part, je travaille régulièrement avec l'association Assosismic et le Sismographe pour, en tout cas, interviewer les artistes qui viennent, ce qui est toujours agréable pour les auditeurs de savoir un peu à qui ils ont affaire. Et puis, peut-être des fois finir de les convaincre d'y aller, en tout cas.
Bah oui, très bien, bravo.
Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview.
J'espère qu'on vous verra sur la piste.
Alors écoutez, c'est pas promis à 100%, mais je viens en général à tous les concerts, donc il y a assez peu de chances que je ne sois pas là. Et peut-être que je ferai une petite prise de son de 2-3 minutes d'ailleurs avec vos collègues pour vous demander vos impressions.
Super, on laissera la parole cette fois donc à Momo et Fred. Et
ben, en tout cas, ça sera avec plaisir.
Merci à vous alors.
Salut à toi.
Radio Pays d'Aurillac.
Suite à l'émission spéciale Noël consacrée aux rapatonnades 2022, vous avez été nombreux à me demander de pouvoir réécouter Lucas Nedeleg. C'est ce que je vous propose maintenant dans un extrait de son spectacle qu'il a donné en octobre 2022 au Sismographe.
Tout le monde est bien installé, ça va ? Allez, on est reparti pour peut-être une dernière escale. Il y a peut-être un dernier conseil quand même à vous donner, c'est de dire à votre cœur de se rapprocher du mien. Et moi, je dirais à mes paroles de se rapprocher de vos oreilles, à vous. Mes paroles qui vous diront ce que c'était que cette bagarre. C'était une sacrée bagarre. C'était tellement une belle bagarre qu'il y a un moment, sous l'effet d'un crochet droit bien placé sous une mâchoire, il y a une dent qui s'est déchaussée et qui s'est mise à tourner sur elle-même encore et encore, sifflant dans l'air, allant d'un bout du bistrot à l'autre bout, rebondissant trois fois contre le sol sale et puant. C'était tellement une belle bagarre qu'à un moment, sous l'effet d'un poing gauche bien placé sur une lèvre inférieure, la lèvre, sous la pression, a explosé et flaf, il y a un jet de sang qui s'est projeté contre le mur. C'était tellement une belle bagarre que, après avoir foutu tout le monde dehors à grands coups de pied dans le derrière, le tavernier a aux mains passé 3 heures à tout remettre, les tables à l'endroit, les verres sur leurs pieds, les bouteilles sur leur cul, et à ramasser les touffes de poils et les dents qui avaient été arrachées dans la bataille. Tout était finalement en ordre, mais il était déjà 3 heures du matin, et c'était tellement une belle bagarre que Père Yann, le patron de pêche sardinier, qui était sur le quai, comme toutes les nuits, à 3 heures du matin, pour embarquer, c'était à cette heure-là qu'on embarquait pour la sardine. Eh bien, il s'est retrouvé tout seul, parce que tous ses matelots étaient chez eux, à l'horizontale, à attendre que leurs dents repoussent. Bon, il était tout seul, je vous ai un petit peu menti. Il y en a un qui est venu, enfin une moitié quoi. Vous savez, c'était le petit Mousse qui avait 13 ans. Parce qu'à 13 ans, à l'époque, on embarquait sur les canottes sardiniers et on n'allait pas à l'école, on apprenait surtout à pêcher. Alors allez manœuvrer une chaloupe sardinière avec un patron et un Mousse. Bon courage à vous. Kayan, il a dit au Mousse de rentrer chez lui, d'aller se reposer un petit peu et puis... Mais il était levé avant même le soleil. Il s'est mis en tête d'aller recruter un équipage. Et ça a duré au moins toute la journée. Hein. Il savait exactement dans quelle maison aller, quelle ruelle aller. Et puis à 1h descente, autour de 9h47, il a commencé à faire le tour des bistrots. Et puis il a rencontré des gens qui cherchaient du travail. Il leur a proposé une paye et il leur a donné rendez-vous à 3h du matin. À la fin de la journée, il avait un équipage qui était quasiment complet. Il lui manquait qu'un type en fait. C'était très embêtant, ça. Parce qu'un type en moins, ça voulait dire moins de sardines dans les filets, moins de sardines dans les boîtes, moins de sous dans la caisse, moins de sous dans les poches. Et c'était très embêtant, donc. Voilà. Alors, il était au bout du quai, en train de se gratter la tête, le père Yann, quand il a vu arriver quelqu'un. C'était un type qui n'avait pas du tout la même silhouette que les types du coin. Il n'avait pas la même démarche non plus, parce qu'il marchait la tête haute, regardant devant lui et en faisant des grands pas. Alors que les gens, dans ce port-là, ils marchaient plutôt en regardant leurs pieds et en faisant des tout petits pas. Et puis arrivé à l'angle du quai, là, il a tourné à 90 degrés. On aurait dit une machine. Et il s'est rapproché très, 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 très près de Périande, qui pouvait sentir son haleine fétide. Et là, il a planté ses yeux dans les siens et lui a dit « Du travail. T'en as du travail. On a dit que t'avais du travail.
Oui, justement, je cherchais quelqu'un pour embarquer. Vous êtes disponible cette nuit à 3h du matin ?
Ah, ouais, si t'as du travail, ouais. Ouais, où est-ce que je signe ?
Là. Pour une fois qu'il y en avait un qui demandait plus de travail, c'était bizarre quand même. Puis une fois qu'il a fait sa petite croix en bas du papier,
t'es sûr que t'en as du travail ? Il va falloir toujours m'en donner du travail, hein, sinon, gare-toi, Périon.
Mais comment il connaît mon nom, celui-là ? Il a tourné les talons l'étranger et il est parti. Il y avait sa cape noire qui lui tombait en bas du dos et qui voltait, alors qu'il n'y avait pas de vent du tout. Bon, à 3h du matin, sur le quai, tout le monde était là.
avec toutes les dents sur la mâchoire en plus. Il y avait le nouvel équipage, Perian lui-même, le petit Mousse et l'étranger. Alors ils ont embarqué sur la chaloupe. Il y avait justement une petite bise qui ridait la mer cette nuit-là. Alors ils ont largué les amarres et le vent a gonflé les voiles. Et en 3 ou 4 virements de bord, c'était plié. Vous savez, quand la sardine est chez nous, elle est juste à quelques milles au-delà des côtes. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, mais ils n'étaient même pas encore sur le lieu de pêche que l'étranger s'est précipité vers le patron et lui a demandé « Du travail ! T'en as du travail, allez, un petit peu de travail, s'il te plaît. Là, bourseau, là, bourre. »
Mais vous pourriez vous occuper par exemple du mât. Il a été construit un petit peu trop gros, il est un petit peu trop lourd. Alors, il faudrait le dégrossir d'environ 1 cm tout autour de manière uniforme. Hein. 1 cm, hein. Pas plus, pas moins, ce sera très bien. Perian n'avait même pas fini d'expliquer que l'étranger était déjà au pied du mât. Et comme un singe, rac, il a monté en 2 secondes jusqu'au sommet. Et là, il a ouvert la bouche en grand, il a planté ses dents de devant dans le bois, comme si c'était un rabot. Et srac, 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 deux nerfs d'adrang, sœur paradavel, rabot dracot, aillon d'azéel, denon diaoul, azokal et d'alem, arver nevomet, nalumetezen, srac, 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 mais arrête, enfant, mais arrête! Qu'est-ce que t'es en train de faire?
Il l'aurait laissé faire 10 secondes de plus, le mât n'aurait pas été plus grand qu'une allumette. L'étranger n'était pas content du tout. Il s'est retourné, il a fait un pas en avant.
Tu m'as dit que tu me donnerais du travail. T'en as du travail. Labour en mon péguette, hein. Labour en mon guimant.
Oui, tu pourrais t'occuper de la chaîne. Voilà, la chaîne et l'ancre n'ont pas été dérouillées depuis qu'on a armé le navire. Il faudrait juste un petit coup sur le dessus, hein. Juste enlever la rouille superficielle, quoi. Il avait même pas fini d'expliquer ce qu'il y avait à faire, que l'étranger était déjà sur la proue. Il a saisi la chaîne d'une main et puis l'ancre de l'autre. Et
flaf, 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 merde, la diverga, carfer vinuten, garapultren et teur goumoulen, dornon diaou, la zostarta gao, deux arjas de demande et méda jomo, flaf, 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 flaf,
flaf, flaf, flaf, flaf, flaf, flaf, la chaîne et l'ancre incluse auraient disparu dans un nuage de poussière métallique.
Tu m'as dit que t'avais du travail. La bourzo d'un raidin péguette. Ben enfin, hein?
Chaque fois qu'il répétait le mot travail, l'étranger s'avançait un pas et puis un autre. Et bientôt, Perian, il s'est retrouvé contre la proue du navire et il n'avait plus du tout d'idée. Pour vous dire toute la vérité, messieurs, dames, il commençait à avoir un petit peu peur, vous voyez. Et à ce moment-là, il y a le petit Mousse qui est du haut de ses 3 pommes et qui, depuis le début de cette histoire, gardait un œil et une oreille traînés sur l'affaire, a fait le tour, longeant le bastingage. Il s'est approché de Perian sur le côté et il lui a tapé sur l'épaule, lui glissant quelques mots dans l'oreille.
Dites-lui, Perian, de vider la mer depuis le côté bâbord jusque sur le côté tribord.
Ah ben ça, il n'y avait pas pensé. Et il n'a même pas eu le temps d'expliquer ce qu'il y avait à faire que déjà l'étranger avait saisi une écope. Ah! Oui, vous savez, c'est ce petit bout de plastique qu'on a pour vider la flotte qu'il y a dans les fonds de cale. Vous voyez ? C'est un peu comme... comme une éponge, quoi. Faut qu'on balance la flotte par le dessus bord. Alors, l'étranger avait saisi son écope, et il s'est précipité sur le bastingage bâbord et...
Flou, 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 flou. Flou, 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 babours, tribours, goloïeur, poulou, redekero, regedamareu. Penondiaou, la drouenne et fulor, biken et votre air, maya, et n'est pas amour, biken et votre air, trer, trer, biken et votre air, maya, et n'est pas amour, biken et votre air, trer, trer, biken et votre air, maya, et n'est pas amour, biken et votre air, trer, trer, biken et votre air, maya, et n'est pas amour, biken et votre air, trer, trer, biken et votre air.
Frère Maya, aîné par amour,
Bikene votre frère,
Bikene votre frère, Maya, aîné par amour,
Bikene votre frère, frère.
Allez vite, l'étranger. À chaque fois qu'il faisait un aller-retour, il allait un petit peu plus vite que la fois précédente. Il allait tellement vite que parfois l'équipage, le regardant, avait l'impression qu'il était dans deux endroits en même temps. Et voilà. Qui peut aller contre la mer? Et il s'est bien rendu compte au bout d'un moment qu'il avait été complètement dupé. Là, il avait les éclairs qui lui sortaient des yeux, je vous dis. Il avait de la fumée qui lui sortait des naseaux, je vous dis. Et quand il s'est rapproché très très près du patron, il lui a lancé
« T'as de la chance, Perian, d'avoir un mousse un petit peu plus intelligent que les autres. Sinon, toi et tous tes gars, vous étiez tous perdus. »
Ce faisant, il a lancé son écope par-dessus son épaule, tuant un phoque sur le cou qui avait eu la malchance de sortir la tête de l'eau à ce moment-là. Et puis il a donné un grand coup de pied sur le bateau et il s'est envolé dans le ciel, tuant un goéland sur le cou, divisant son corps en deux parties qui sont lamentablement retombées du côté bâbord et du côté tribord. Ne laissant derrière lui qu'une étrange odeur de soupe. Vous me croirez ou pas? Et si vous ne me croyez pas, vous irez leur demander vous-même. Mais cette nuit-là, ils ont fait la plus belle pêche de toute leur vie de pêcheur.
Les filets bleus étaient pleins à craquer. On avait l'impression que la mer était faite d'eau argentée qui brillait dans tous les sens. On avait l'impression que quelqu'un avait vidé un pot de paillettes dans l'océan. Et puis, les cales étaient pleines de sardines jusque ras-bord. Il y en avait même une ou deux qui arrivaient à s'échapper par-dessus le bastingage. Hop, pouf.
Quand ils sont revenus au port, tout le monde était déjà levé. Il y avait les commises qui étaient au bout du quai. Vous savez, les commises, c'est ces femmes qui sont envoyées par les patrons d'usine pour aller acheter la sardine avec la parole. La chaloupe n'avait même pas touché la roche que déjà, toutes les sardines étaient vendues. Alors, ben, la caisse était pleine. Sur le quai, quand le bateau était bien amarré, ils ont divisé les parts. Une part égale pour tout le monde, patron, pêcheur. Une demi-part pour le mousse. C'était comme ça que ça se passait. Et là, le mousse, avec sa demi-part en poche, oh, ça pesait lourd quand même dans ses petites poches de 12 ans, eh bien, il a annoncé à tous les autres que plus jamais, au grand jamais, il ne partirait travailler en mer. Puis vous savez comment c'est, l'horloge tourne et les mousses grandissent. Et quand celui-ci était devenu un jeune homme, il a pris une grande décision, celle d'ouvrir un bistrot. Mais attention, pas n'importe quel genre de bistrot, vous savez, le genre de bistrot où les dents restent sur la mâchoire, le genre de bistrot qui est bien tenu, quoi, le genre de bistrot qui ferme à l'heure et qui ouvre à l'heure, et dans lequel on aime bien raconter des histoires. Alors, ben, le mousse, il a passé sa vie à faire des allers-retours entre le côté bâbord du comptoir et le côté de tribord. Vous savez, à bâbord, il y avait les barriques de vin, et à tribord, il y avait les pêcheurs qui venaient boire. Et il allait vite! Le mousse, devenu tavernier, il allait un peu plus vite à chaque aller-retour. Il allait tellement vite que parfois, les clients qu'il regardait avaient l'impression qu'il était dans deux endroits en même temps. Et voilà. Malgré tout, du côté bâbord, les barriques de vin ne se vidaient jamais. Du côté tribord, les verres ne se remplissaient jamais non plus parce que leur contenu était systématiquement envoyé tout au fond de cette grande fosse qu'on appelle l'estomac des marins. Merci. Mon grand-père qui habitait à Plonet-les-Porzay, il m'en est toujours fait un tour du côté de la pointe du Raz. Il y en a peut-être qui sont allés. C'est pas la même pointe que l'île d'Ouessant, mais c'est l'autre, celle qui est au sud. Et quand on arrivait à la pointe du Raz, Hervé Cheva, ils se garaient comme tous les touristes au parking, Hervé Cheva, Nemestra. Et puis on prenait l'autoroute des touristes, là, vous savez, ce chemin qui est dallé, il marchait avec sa canne, Hervé Cheva. Et il voulait toujours se mettre tout au bout. Quand il y avait les touristes qui étaient déjà tout au bout, il allait se mettre devant les touristes qui étaient tout au bout.
Herve Chevac, qui se mettait sur la dernière pierre, derrière le dernier caillou, celle qui était un petit peu penchée vers la mer. Herve Chevac, il le stoppe. Et là, il plantait ses yeux dans l'horizon. Herve Chevac, il regardait pendant un long moment. Ça durait des minutes entières parfois. Herve Chevac. Et puis au bout d'un moment, il disait, les yeux plissés. Et Lucas, je vois le linge qui sèche à New York.
Et moi, dans ma petite tête, je pouvais pas m'empêcher de penser, est-ce que là-bas, de l'autre côté de ce grand lac qu'on appelle l'océan Atlantique, au pays du Coca-Cola, les O'Connell sont à la 72e tour d'un immeuble du Brooklyn. Et est-ce que la mère de famille, plantée devant la fenêtre, face à l'océan, plisse les yeux et au bout d'un moment dit « Hey, Richie, je vois le linge qui sèche à Aurillac. » Et là, mon grand-père, à ce moment-là, me disait « Lucas, rends-moi ma canne, on rentre à la maison. » Maharit a fini par s'endormir au coin du feu. Et là, dans le fond de l'âtre, les braises rougeoient.
Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci beaucoup. C'est des applaudissements qui font chaud au cœur. Je m'appelle Lucas Nedelec et je viens d'un petit coin de Bretagne que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être deviné le nom.
Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens tout particulièrement à remercier ceux qui ont participé à cette émission et ceux qui l'ont écoutée, bien évidemment. Si un sujet vous passionne, que vous souhaitez en parler à la radio, rien de plus simple, vous me contactez au 07 69 25 96 69. Vous pouvez également m'écrire sur Instagram. Le compte, c'est Chronique Terrienne, bien évidemment. Votre émission est disponible sur les podcasts de Radio Pays d'Aurillac, sur son site radiopaysdauriac.com. Vous pouvez également réécouter vos chroniques terriennes sur la chaîne YouTube éponyme. Merci d'avoir écouté cette émission. Au revoir à toutes, au revoir à tous.
d'Aurillac.